L'épopée du tramway de Piégu, Piégu, Pluvier, Pluvier, Pluvier.
Deuxième partie.
Vie et mort.
Finalement, le projet fut acté. L'affaire se met en branle. Les travaux débutent en 1909. À Piégu, le terrain se prépare. Le 2 février 1911, le maire fait savoir au conseil que la ligne de tramway en construction entraîne l'abattage des arbres sur le chemin de grande communication numéro 84 de Piégu à Saint-Mathieu et qu'il y aurait lieu dès lors de procéder à la vente de
139 frênes, 42 sycomores, 2 ormeaux.
Dans la même séance, le compte-rendu municipal mentionne des difficultés avec l'entrepreneur chargé des travaux de voirie, M. Pasquet. Mais désormais, rien n'arrêtera sa construction. Et finalement, le tramway entre en service.
En 1912.
Les Piégutins étaient-ils indifférents? Étaient-ils fiers? Comment est-ce que on accueille un train là dans la Pampa?
Bah, à Piégu, c'est difficile à dire. Mais bon, d'après les lectures que j'ai pu faire, il est certain qu'il y a eu des bourgs dans lesquels l'arrivée du train a été perçue. Bon, avec effarement quoi, de la part des personnes, parce que elles n'en avaient jamais vu, et donc c'était la première fois qu'elles voyaient un train. Hein, de même, prendre le train n'allait pas de soi au départ, et donc là aussi, il y a eu des nouvelles habitudes qui ont fait que prendre le train, c'était quelque chose, quoi, de nouveau pour les personnes. Hein, de même, c'est un petit peu le nouveau rapport au temps que j'explique un petit peu dans mon ouvrage, qui se dessine.
Et alors, ce petit train de Piégu, est-ce que vous aviez l'impression que les Piégutins étaient fiers de leur train? Ils y tenaient?
Oui, oui, on a été très fiers quand on l'a installé, et on en a beaucoup parlé, on a fait des chansons sur le petit train, les gens étaient très contents.
Et les chansons, alors, vous vous en souvenez?
Non, je ne me souviens pas. Je ne peux pas chanter.
Et les paroles, hein?
Je ne me souviens pas.
Ah ouais. Est-ce que vous pensez que lorsque le train arrive, les gens étaient contents de l'avoir?
Oui.
Oui.
Oui, c'était vrai. Et puis vraiment, c'était pour aller à Angoulême, c'était pour aller à Limoges. C'était le lieu. Et en plus, il y avait le marché de Piégu aussi qui avait un impact aussi important sur le train, parce que les gens pouvaient circuler avec par le train. En plus, hein, tous les représentants de commerce, etc., qui passaient, prenaient le train. Oui, Didier Lignal, ancien pharmacien et maire de Piégu, conseiller général de Piégu jusqu'en 2017.
Dites-moi, vous pensez qu'il y avait une espèce de snobisme de la part des communes ayant le train vis-à-vis des autres?
C'est difficile à dire. Enfin, moi, ce que je pense, effectivement, c'est que les communes qui étaient desservies par le TACO pouvaient s'enorgueillir de son passage, parce que toutes les communes n'y étaient pas. Je pense par exemple à des communes comme Busserolles, enfin des coins qui sont quand même encore plus reculés, on n'était pas desservis par le train, donc les gens de Busserolles à l'époque pour venir à Piégu, bah oui, ils y venaient à pied ou ils y venaient avec un âne tiré par une charrette, enfin qui tirait une charrette plutôt, ou un cheval. Donc effectivement, les communes qui par lesquelles le train passait,
elles étaient fières. Hein.
Elles étaient fières, oui.
Mais rapidement, quelques problèmes imprévus surgissent. Quelques anicroches indésirables. Très rapidement, les usagers s'aperçoivent que l'accès à la gare est bien trop étroit pour pouvoir aisément charger, décharger, ou tout simplement circuler.
Il y avait un chemin très difficile pour accéder dans le village de Piégut. Un chemin qui descendait et qui montait beaucoup, qui a été arrangé par la suite. La communication avec la gare n'était pas très facile. C'était un chemin très étroit pour aller à la gare.
Et le 23 juin 1912, le conseil municipal de Piégut prie l'administration des chemins de fer de la Dordogne de faire procéder aux changements nécessaires. En outre, le conseil réclame une modification de la marche des trains. En effet, le dernier train de la journée s'arrêtait à Saint-Mathieu. Or, les Piégutins demandaient à ce que ce dernier train aille jusqu'à Piégut pour s'y garer durant la nuit, épargnant ainsi aux voyageurs du soir de dormir à Saint-Mathieu et permettant dès lors aux Piégutins de partir sur Limoges tôt le matin.
C'était censé faire un raccord avec le tramway électrique Saint-Mathieu-Limoges. Mais seulement fallait 2 jours pour aller... Parce qu'il fallait les coucher à Saint-Mathieu pour attendre le lendemain matin le départ du tramway électrique qui allait à Limoges.
La réponse tombe et nous l'apprenons lors d'une nouvelle séance du conseil municipal de Piégut du 29 septembre 1912.
Monsieur le directeur du tramway de la Dordogne fait connaître au conseil qu'il ne lui est pas possible de donner satisfaction quant au train supplémentaire entre Piégut et Saint-Mathieu et quant à l'agrandissement de la gare de Piégut.
En 1914, le conseil se plaint à nouveau des horaires. Il réclame à nouveau des changements à l'administration des tramways de la Dordogne. Les départs se font trop tôt, les mercredis, les jours de marché, et les voyageurs manquent de temps pour finaliser leur achat, et les commerçants se plaignent d'un chiffre d'affaires en baisse. En 1921, lors de la première séance ordinaire du Conseil général de la Dordogne, M. Champarneau déplore que l'augmentation des tarifs ait rendu leurs coûts prohibitifs. Il a ajouté qu'à cause de cela, les négociants ont renoncé au rail. Et il estime à 50 000 francs le manque à gagner de la gare de Piégut, et ce, depuis plusieurs mois. Dans la même séance, son collègue, le député Cirejol, approuve.
Les transports sont hors de prix. Et comme on dit familièrement, le petit cochon embarqué à Piégut est mangé avant d'arriver à Saint-Pardou. Lorsque le gros tonnage, notamment le bois, actuellement entassé dans les gares, aura été transporté, il n'y aura plus rien à faire. Dans 2 ans, nos chemins de fer auront perdu toute leur clientèle.
En vain. L'épopée du tramway de Piégut aura duré 23 ans.
Et ça s'est terminé en 1935.
Comment est-ce que vous expliquez la fermeture de ce tramway ?
Ben, d'après ce que j'ai pu lire dans l'ouvrage d'Henri Brive, c'était le déficit financier, quoi, que ce déficit financier était très important, quoi. Donc à partir du moment où les lignes ne sont plus rentables, et après à l'État, au département de prendre en charge ce déficit. Et je pense que la fermeture de ces lignes a dû être faite au prix de débats âpres, quoi, entre les personnes qui étaient partisanes de la fermeture, d'autres qui voyaient plutôt le fait de continuer à les faire vivre malgré le déficit. Mais il faut aussi rappeler que les trois lignes ont fermé en 1935, c'était justement dans cette décennie de crise, quoi. Et je pense que il y avait là tout un contexte général qui faisait que le TACO y passait à la trappe, quoi. Et les autres lignes ont perduré pas très longtemps, puisqu'après il y a eu le second conflit mondial et elles ont fini par fermer, celles qui ont perduré en 1945, quoi. 49, hein, donc quelques années après la fin de la guerre, quoi. Alors la fermeture là, des trois lignes en 1934-35, bon, c'est Henri Brive qui dit qu'il y avait un déficit très gros de 470 000 francs pour les trois lignes. C'était quand même important.
Vous étiez sociologue, c'est ça?
Oui. Mm-hmm. Et donc c'est plutôt en vieillissant que j'ai compris que l'histoire était importante pour comprendre le temps présent, quoi. Donc c'est un peu un cheminement personnel et un détour que je fais à cette période. Voilà, je trouvais que Piégut avait une histoire, Piégut avait une belle histoire, et qu'il était important de la rapporter, quoi. Notamment cette idée que Piégut était entré dans le monde moderne avant la guerre 14-18, quoi.
Mais pourquoi ça s'est arrêté si ça marchait si bien?
Parce qu'il y a commencé à avoir des autobus. Et les autobus ont pris la clientèle du tramway, voilà.
Et est-ce que vous avez l'impression que, justement, les jours de marché, il y avait beaucoup, beaucoup plus de monde grâce à ce train?
C'est ce qu'on dit. Ou non, les gens de la campagne qui venaient ici, venaient en général amener leurs animaux avec leurs propres charrettes, leurs ânes et leurs vaches. Ils allaient très lentement, mais enfin, ils partaient le matin de très bonne heure et pour arriver au marché assez tôt pour vendre leurs animaux. Voilà. Et le soir, souvent, ils partaient tard aussi. Je me souviens que dans la boutique de mes parents, on vendait des lanternes en papier huilé pour mettre aux charrettes des vaches ou aux charrettes des ânes qui n'avaient pas d'éclairage. On disait, oh, il y a les gendarmes à la folie, il faut absolument qu'on ait un éclairage. Alors, ils achetaient une bougie et une espèce de petite lanterne en papier huilé.
À chaque Français, l'accès au chemin de fer. Le train pour chaque Français s'avère trop dispendieux, bien au-dessus des moyens des départements. Et son démantèlement, à l'instar de sa mise en place, s'étala dans le temps, par étapes. Déjà, le troisième réseau rêvé et imaginé destiné aux cantons jusque-là déshérités ne sortira jamais de terre. Enterré, le projet. Enterré par les frais de la Première Guerre mondiale. Enterré, mais remplacé par une ligne d'autobus. Deuxième réseau, il a été réaménagé plusieurs fois afin de produire des économies. Les trains de voyageurs au jour de peu d'affluence furent en premier fermés, puis tous les trains de voyageurs. Dans la séance du 16 février 1935, le compte-rendu de la séance municipale atteste que de nombreux commerçants de Piégut se sont plaints de la suppression complète du tramway départemental et demandent son rétablissement, sinon total, du moins partiel. Il y est aussi consigné qu'une pétition couverte de signatures circule.
Dans les archives de Piégut, il est écrit qu'il y a eu une pétition suite donc à l'arrêt du train. Est-ce que vous avez connaissance de cette pétition?
Non. Mmh. Les gens, je pense que les échos que j'ai pu en avoir, les gens à l'époque s'étaient battus, enfin, avaient fait justement cette pétition pour demander que le train continue à circuler.
Donc vous en avez entendu parler, mais vous ne l'avez pas vu?
Non, j'ai pas vu les documents. J'ai pas vu les documents.
Mais vous en avez entendu parler?
Oui.
Vous vous souvenez de ce qu'on vous a dit par rapport?
Non, je peux pas dire. Puis bon, c'est trop lointain maintenant.
Dans la même séance du 16 février 1935. Le directeur de l'école de Piégut, mais également membre du conseil général et des conseils du département, M. Champarnaud, déplore la suppression du Saint-Pardoux-Saint-Mathieu. décidé par le Conseil général de la Dordogne le 20 octobre 1934.
Messieurs, notre section reliait directement le Périgord au Limousin, c'est-à-dire deux régions bien distinctes et à production différente qui comportaient un échange constant de produits de toutes sortes. Les mêmes wagons, chargés de marchandises partant de Périgueux pour être déchargés sur toute la ligne jusqu'à Saint-Mathieu. Les négociants et fabricants du chef-lieu et les stations intermédiaires envoyaient dans nos centres leur fer, leur poterie, leur chaux, leur plâtre, leur ciment, tissus ou objets fabriqués. À Brantôme, des pierres et autres matériaux de construction. Plusieurs fois par semaine, les vins du Bergeracois, embarqués à la gare de la Moulette, arrivaient par wagons pleins dans nos gares, et ces wagons redescendaient chargés des produits du pays. Noix, châtaignes, pommes de terre, pommes à cidre et à couteau, champignons ou produits d'élevage, veaux ou mourins. Il y avait aussi les produits de l'exploitation forestière, bois pelé ou engrumes, piquets, carassonnes, lattes, cercles ou produits du sous-sol, pavés de granit et encore meubles sortis de nos nombreux ateliers. En supprimant la ligne Saint-Pardoux-Saint-Mathieu, sous prétexte que cette ligne fait partie du réseau secondaire et qu'elle a un rendement déficitaire, le Conseil général a commis une grave erreur. Il a coupé une des racines nourricières qui alimentait en sève l'arbre entier. Il a tranché le lien qui unit ces deux régions aux productions différentes.
Le 21 décembre 1935, les élus et les habitants protestataires réclament et demandent le maintien de leur ligne qui a coûté si cher et dont les annuités d'emprunt courent toujours. Cette ligne qui, estiment-ils, a rendu d'immenses services et peut encore en rendre le jour où la crise vaincue, le trafic reprendra. Nous demandons qu'on réserve l'avenir et que les rails ne soient pas enlevés pour permettre plus tard aux trains vapeur d'assurer une ou deux fois par semaine le transport de marchandises.
Est-ce que vous pensez que la fermeture d'un train comme ça, ça réduit le commerce à Piégu et signe en quelque sorte le début de la fin du marché, hein? Enfin, la fin du marché, disons que le marché est moins important qu'auparavant.
Bah non, on n'a pas beaucoup d'éléments là-dessus. La fermeture du train et ses conséquences sur le marché, c'est difficile à évaluer. Bon, ce qui est sûr, c'est que avec le développement des véhicules à moteur, c'est une ère nouvelle qui s'ouvre, quoi. Donc les gens ont continué à fréquenter le marché ou ont continué à faire le marché avec des camionnettes. Alors avec une période de transition où il devait encore y avoir à la fois la charrette tirée par une mule ou par un âne, et puis aussi des camionnettes qui... Enfin, tout ça, s'est fait petit à petit, quoi. Déjà entre les deux guerres, mais encore plus après la guerre, quoi. La seconde guerre, celle-là, avec le développement de l'automobile, quoi.
Finalement, et en dépit de la pétition et du mécontentement de certains élus, les usagers s'y sont faits à sa disparition du tramway.
Qu'est-ce que tu veux faire ? On n'a pas le choix quand il n'y a pas le choix.
Il faut dire qu'en 1921, la Dordogne disposait d'un réseau d'autobus couvrant près de 450 km. Pour la seule Dordogne, un record. D'ailleurs, dès leur prémisse, les trains et tramways se trouvaient concurrencés par l'automobile et l'autobus. Les routes se sont démultipliées depuis la seconde moitié du 19e siècle. Et il faut bien l'avouer, le tram était peu confortable et surtout extrêmement lent.
Le petit train, je ne l'ai pas connu, bondé, moi, avec beaucoup de monde. Mais il servait beaucoup quand même. Seulement, il fallait être très patient, parce qu'il fallait longtemps, il fallait plusieurs heures pour aller à Périgueux. Ah ben, c'est ce que vous dites, c'était... Moi, j'ai jamais fait le trajet jusqu'à Périgueux avec ce train. Hein. La famille, oui, mais moi, j'étais gamin, je suis jamais allé à Périgueux avec ce train. Mon frère aîné, oui, parce qu'il était, au lycée à Périgueux. Donc, mais c'était tellement peu rapide qu'on avait trouvé d'autres moyens pour aller à Périgueux. On prenait le tramway jusqu'à Saint-Pardoux, et à Saint-Pardoux, on allait à Thiviers, et à Thiviers, il y avait le train.
Et
grande vitesse pour aller à Périgueux, voilà. Mais c'était aussi toute une histoire, mais ça allait plus vite qu'avec le tramway, qui s'arrêtait tous les 10 km presque, et les autobus. Et l'autobus allait plus vite que le tramway. Tramway, c'était, il fallait 4 ou 5 heures pour aller à Périgueux. Alors après, il y a eu, alors, pour concurrencer les autobus, il y a eu les Michelin.
Ah oui.
Voilà, les Michelin. Mais ça n'a pas duré très longtemps non plus, les Michelin. Partez de Périgueux.
Donc, puisque vous êtes un Piégutin depuis votre naissance,
oui.
Est-ce que vous savez si cette gare, les gens l'ont regrettée et à un moment donné ont souhaité la faire revivre?
Je ne sais pas si les gens l'ont regrettée. Je n'en sais rien. Non, on s'est habitué à vivre avec les autobus, et puis il y a eu très tôt des automobiles.
À l'époque, c'était une certaine évolution. Puis bon, c'était la liberté et l'indépendance de chacun. Chacun voulait avoir sa propre voiture. Après, tandis que là, c'était plus même au niveau de la vie sociale, ça avait un impact important, parce que là, on se retrouvait un petit peu en petit comité, en famille, tandis que avec le train, on voyageait avec ses amis, c'était quand même la population était plus importante à circuler. Hein. Il y avait moins de moyens de passer d'un village à l'autre, hein, d'une ville à l'autre. Hein. Parce que qu'est-ce qu'il y avait ? Il y avait les animaux, il y avait le vélo. Après, c'est tout. Il n'y a pas d'autres moyens de...
Oui.
Le confort aussi. Je me souviens des trains, quand j'étais jeune, c'était des sièges en bois qui faisaient très mal, que les voitures étaient douces. C'était moelleux. Quand on était tout petit, ça, c'était vraiment quelque chose...
Mais c'était une évolution aussi de la modernité des choses. C'était... Oui. Quand on voit, moi, il y a des voitures, enfin, au château de Curazo, il y a encore des voitures anciennes, etc., qu'on avait exposées pour la Félibrée. Mais c'est des voitures à cheval, mais c'est vrai que c'était assez rudimentaire. Enfin, de très très belles voitures, c'est des voitures de châtelain, etc. Mais c'est vrai que c'était très très rustique. Hein, donc, c'est vrai que la voiture, ça allait plus vite. Ça, c'est.
Troisième chapitre. Parenthèse socio-historique, le train et l'entrée dans l'âge moderne. La suite, rendez-vous sur https://fragmentschampetreetperiphérique.lepodcast.fr. À bientôt.